Moi, je suis André, je suis maille au café oriental. J'ai refusé totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous convaincre au café anglais. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission 100% interactive de Radio Capi, parole aux auditeurs. La lutte contre la corruption est au centre de l'émission. Selon plusieurs rapports des organisations tant nationales qu'internationales, la RDC connaît vraiment beaucoup de problèmes de corruption et ce phénomène de corruption a atteint un niveau systémique. La corruption est même banalisée et relève du quotidien de la population et des entrepreneurs qui vivent avec et vont jusqu'à la considérer avec fatalisme comme partie intégrante de la culture, non seulement pour des décisions publiques ou bien des règles officielles comme l'attribution d'un marché public où le montant des taxes à payer se négocie, mais bien souvent l'accès à un service public ou à l'exercice d'un droit comme l'obtention d'une pièce d'état civil se monnaie également. Depuis Okiroge, la société congolaise entraîne des conséquences néfastes sur le développement intégral du pays, tant sur le plan social, économique et même de la moralité de toute une nation. Que faut-il faire, à votre avis, pour lutter contre ce fléau? Au studio, nous aurons M. Augustin Monambali, il est le coordonnateur du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Moussa Bachizi et Ben Kabamba sont à la réalisation de cette émission. Willem Lungamba est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
En attendant l'arrivée de M. Augustin Monambali, le coordonnateur du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la contre-corruption qui va venir d'un moment à l'autre dans notre studio, pour que nous puissions échanger avec lui et surtout avec vous, les auditeurs, sur la lutte contre la corruption dans notre pays. Il faut dire qu'il se tient depuis la semaine dernière et le séminaire d'atelier va se clôturer aujourd'hui, ce jeudi, dans l'après-midi à Kinshasa. Un atelier des experts en vue d'élaborer, de prévalider une stratégie nationale de lutte contre la corruption en RDC, atelier organisé par l'Observatoire de l'éthique professionnelle OSEP, une structure gouvernementale en collaboration avec ses partenaires comme l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, sans oublier aussi EISA, qui est l'Institut africain pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. D'ailleurs, notre invité fait son entrée dans le studio. Vous pouvez prendre place, Monsieur Augustin Mwendambali. Le temps que vous puissiez porter votre casque, comme ça vous avez un retour de tout ce qui sera dit au niveau de Gaëlle, et aussi soyez vraiment à côté du micro. Bonjour, Monsieur Auguste Monambali.
Bonjour,
c'est Augustin ou Auguste?
Augustin. Augustin. Augustin Mwendambali. Mmh. Oui, on peut dire le deux.
Merci d'être venu à ce studio pour qu'on puisse échanger de la lutte contre la corruption. C'est une question assez délicate parce qu'à un certain niveau, il y a plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales, qui disent que la RDC a fait un niveau systémique en RDC et c'est devenu très très compliqué maintenant pour l'endiguer parce que c'est à tous les niveaux, c'est à tout, donc on la retrouve un peu partout. Dites-nous, vous êtes là avec nous, vous travaillez dans la lutte contre la corruption, est-ce que vous avez au moins des chiffres du niveau de corruption en RDC?
Merci madame, je vous dirais que la corruption est un phénomène transfrontalier. Il ne concerne pas seulement la RDC, tous les pays du monde sont parfois l'objet des pratiques de corruption. Mm-hmm. Et à ce concernant la RDC, nous reconnaissons qu'il est vrai que les pratiques de corruption sont monnaie courante et parfois dans notre pays. Le taux, selon les enquêtes que nous avons diligentées d'abord au mois de mai, ici 2010, ont révélé clairement que 50% de la population congolaise pourrait, je dis bien pourrait au conditionnel, c'est une grosse pratique de corruption. Bon, vous savez que Transparency International a publié son rapport annuel de l'année passée, et là, nous avons été placés à la 62e place sur la liste des 180 pays nominés en matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Donc, je dirais si c'est 50% de la population qui se trouve être touchée, il faut d'abord reconnaître que la tranche la plus touchée par ces pratiques se trouve normalement dans les centres urbains, dans les grandes villes. Mais les campagnes restent encore saines, d'où le signal d'alarme est donné par le président de la République à travers l'opération Tolérance Zéro, afin que les choses puissent revenir à la normale. Et il a déclenché l'opération Tolérance Zéro, il a convoqué un forum national sur la lutte contre la corruption, dont les travaux aujourd'hui sont arrivés à leur phase finale, notamment à travers l'atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en activité aujourd'hui au ministère de la fonction publique.
Nous allons revenir sur l'opération Tolérance Zéro. Mais selon les études menées, les secteurs qui sont le plus touchés par cette corruption, ou bien les secteurs qui sont les plus corrompus, nous avons la justice qui occupe la première place, et puis le secteur politico-administratif, le secteur économique, financier, et les secteurs aussi en bas de liste. On a aussi le secteur sociaux, culturel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu gênant lorsqu'on dit que le secteur de la justice soit corrompu, que ce soit en tête de liste, parce que c'est normalement la justice qui peut réduire et éradiquer la corruption?
Il est vrai, madame, que c'est inquiétant. C'est un constat amer. Nous en sommes conscients. C'est pas pour rien que le président de la République vient d'engager au moins plus de 2000 magistrats, qu'on appelle les magistrats de la génération de rupture avec la corruption. C'est que nous sommes conscients du phénomène et que les mécanismes sont déjà en place pour pouvoir y remédier. Et parmi ces mécanismes, je vais vous dire tout à fait d'une manière simple, que dans la réforme de l'appareil judiciaire, il est prévu dans les jours qui viennent l'implantation d'une cour spéciale anticorruption en RDC, avec à sa tête un procureur spécial anticorruption. Dans l'immédiat, ça c'est à moyen terme, dans l'immédiat, il y aura, dès que le gouvernement aura pris possession du contenu des documents nationaux, de stratégie nationale de lutte contre la corruption, il se pourrait immédiatement, après l'approbation du gouvernement et l'adoption par l'Assemblée, qu'on puisse mettre en place déjà des chambres spécialisées en lutte contre la corruption dans chaque juridiction de notre pays. Donc vous voyez déjà que la République, le gouvernement et l'autorité supérieure est conscient ou sont conscients du danger ou du niveau d'élévation de la corruption au sein de l'appareil judiciaire.
Et pour l'instant, nous sommes encore à l'étape de programmation, d'élaboration, en attendant que cela s'applique sur terrain. Nous allons suivre nos auditeurs qui veulent s'exprimer à ce sujet. Aujourd'hui, nous voulons vraiment des propositions pour lutter contre la corruption. Nous savons qu'elle existe, qu'elle est ancrée et que nous la vivons au quotidien, mais aujourd'hui nous voulons vraiment des propositions pour éradiquer cette corruption. Nous avons Pierrot Amoba, Étienne de Bukavu et Jean-Claude de Mbandaka que nous allons suivre d'un moment à l'autre.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot.
Allez, bonjour Cynthia.
Non, c'est pas Cynthia, c'est Marie-Chantal Lumba. Cynthia est au standard, donc c'est elle qui vous a rappelé pour que vous puissiez participer à cette émission et à la réalisation. Pierrot, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour pouvoir éradiquer la corruption?
Oui, Marie-Chantal, hein, je partirai d'une parabole du serviteur des dieux, l'évangéliste et banquier. Et cette parabole-là a exposé le cas d'un ouvrier, des ouvriers qui travaillaient au compte d'un patron. Alors, le cuisinier a bouffé un poulet, et le lavandier voyait comment le poulet était en train de se bouffer par le cuisinier. Alors, lorsque le lavandier aussi a posé un acte irresponsable, le cuisinier voulait l'accuser auprès du patron, et le lavandier a dit, souviens-toi du poulet. Il n'y avait pas moyen que le cuisinier puisse trahir le lavandier. Parce qu'il y avait le principe, rien n'avait cité. Kumbuka kuku, Alors vous comprenez que Satan ne peut pas envoyer le diable à l'enfer. Alors lorsque déjà l'ouvrier a volé, il n'y a pas moyen que le patron puisse le trahir. Alors quand il peut se trahir à l'intérieur, c'est déjà un système. Ça forme déjà un gouvernement. Et c'est ça le problème que nous vivons. Alors vous comprenez déjà que Satan ne peut pas envoyer le diable à l'enfer. Il n'y a pas moyen. C'est pourquoi le système de la corruption constitue déjà une
Je suis tenté de vous poser la question pour savoir c'est qui Satan, qui est le diable, mais ce n'est pas là notre problème aujourd'hui. Vos propositions pour lutter contre la corruption.
Vous comprenez, madame, que ça c'est déjà un problème lorsqu'on n'est pas capable d'échapper à la corruption, parce que soit-même on est corrompu, c'est déjà un système. Alors, je propose ceci. Bon, je vais comparer cela à un système informatique. Lorsque toute la machine, l'ordinateur est déjà corrompu par les virus, le seul remède pour qu'on remette l'ordinateur en système de travail, il faut formater toute la machine. Chasser le Windows, chasser l'Office, remettre le nouveau Windows avec des nouveaux systèmes non corrompus. Alors vous comprenez qu'il faut formater le système. Alors il faut le faire. C'est-à-dire chez nous, il faut le faire. Mais ce qui nous dérange, c'est que quand on a chassé cela par une correction, quelque part on va dire, le chien à bord et la caravane passent. Nous parlons et on va écouter. C'est qu'il faut formater le système.
Formater le système, ça veut dire, vraiment c'est un peu vague, hein, sur le plan technique, on comprend qu'il y a quand même un technicien qui formate son ordinateur. Mais à votre avis, qui est le technicien pour formater notre société?
Le peuple. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Parce que la corruption, c'est au plus haut niveau. Alors, lorsque la tête, lorsque le plus haut niveau est corrompu, lorsque la direction est corrompue, il n'y a pas moyen que le professeur ne soit pas. Alors, vous comprenez que lorsque le préfet est corrompu, même l'élève sera aussi corrompu. Donc, la corruption, c'est au niveau du sommet. Alors, vous allez vous souvenir que le premier ministre est parti, le patriarche a dit que. Et lorsque le poisson est voudrait être corrompu, c'est au niveau de sa tête que la corruption commence.
Donc il faut bien
qu'il soit responsable de cela en tant que responsable.
Oui, Pierrot.
En tant que nous responsable.
Pierrot.
Et on parle de conscience de cela.
Merci beaucoup, Pierrot. Donc, pour vous, il faut un signal fort au niveau du sommet, au niveau de la tête, mais aussi, vous pensez que la population doit prendre ses responsabilités pour endiguer ce fléau. Merci, Pierrot de Moba. Bonjour, Étienne.
Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Pratique.
Oui, vous êtes à Bukavu. On vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Oui, merci. Je disais que je pouvais dire le chef de l'État avait déjà établi des formules principales qui devraient réduire sensiblement la corruption dans notre pays, mais malheureusement, ces formules n'ont pas été mises en application, notamment c'est la fin de la récréation et la tolérance zéro annoncée récemment. Mais toutes ces formules n'ont pas été mises en application.
Au regard du niveau qu'a atteint la corruption dans notre société, vous pensez qu'il suffit, parce que le temps où le président a annoncé la fin de la récréation et le moment où il a lancé la tolérance zéro et à ce jour, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait encore plus de temps pour éradiquer la corruption?
Il faudrait envoyer les gens sur terre pour éradiquer et diagnostiquer ce qui se passe sur terre, puisque nous qui sommes sur le terrain, nous n'avons jamais remarqué que cela a été lancé, puisque les mêmes erreurs qui se commettaient avant le lancement de ces deux formules se commettent encore sur le terrain. Lorsqu'on veut connaître tous ces problèmes ici, il faut s'adresser aux gens qui vivent à l'est. Vous verrez comment cette corruption passe par tous les services. Et je voulais aussi dire, comme autre proposition, il faudrait mettre fin à ce qu'on a appelé la fois passée le rétablissement des relations diplomatiques, que moi j'appelle aujourd'hui ironique. Puisque les mêmes corruptions s'observent par toutes les frontières que nous partageons avec nos trois voisins de la région des Grands Lacs. Pourtant, cette corruption n'est pas pratiquée chez eux, mais ils acceptent que les hommes d'affaires frauduleux passent chez eux avec beaucoup de matières premières de notre pays, au détriment toujours des avantages du peuple congolais.
Donc pour vous, Étienne, la lutte doit être multisectorielle. Merci Étienne de Bukavu. Nous allons écouter Jean-Claude Mbandaka. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude, on vous écoute.
Moi, madame, je vous remercie sincèrement pour m'avoir encore permis de m'exprimer aujourd'hui sur la corruption, qui est un phénomène vraiment très grave. Ça nous cause de la honte, c'est devenu vraiment intolérable et insupportable. Mais à moi, comme solution, si bien que je suis pessimiste, je vais vous dire que c'est un problème d'abord de volonté politique. Si le chef de l'État est vraiment sincère, moi je vais vous aider avec quelques solutions. La première chose, c'est d'abord prévoir les salaires. Il faut qu'il y ait l'argent, hein, pour quand même quelque chose. Il faut qu'il trouve vraiment un salaire qui lui permet de vivre, qui lui permet de faire une petite économie. Ce qui est grand chez nous, c'est quoi? Vous trouvez un pléthore de gens dans des secteurs non essentiels. Par exemple, les transcoms, l'environnement, où il y a beaucoup de gens. Alors que, par exemple, dans l'enseignement supérieur université, il n'y a pas vraiment des gens qualifiés. Vous trouvez dans la justice, il n'y a pas vraiment des gens qualifiés. Et que la justice est vraiment corrompue. Je vous laisse surtout maintenant aller. La grande préoccupation contre la justice, moi je pense qu'il y a ceci. Nous ne devons pas pardonner, nous devons aller plus loin au but. Moi, si je suis le chef de l'État, je ferai partir tous les procureurs et leurs agents. Je ferai partir par de ceci à tous les niveaux. Tous les juges présidents et leurs agents. De sorte que, on nous amène des procureurs qui vont prendre cette place en attendant que les Congolais soient formés, aillent en stage. Et de sorte que, c'est ces conférences de procureurs expatriés et la possibilité d'arrêter et de libérer les gens. Parce que tout ce monnaie, quelqu'un qui est en cravate ne sera jamais arrêté. Même si je suis violé en plein route, tout là, si j'ai 1000 dollars en poche, on ne fera rien. Donc, c'est ma première une proposition de faire partie de tous ces gens. Et puis, ma seconde, c'est de nous donner, je demande au ministre de la fonction publique, mais de celui du secteur privé, de planifier, de faire ce qu'on appelle de mettre des salaires minimum pour que les gens puissent travailler en toute
À vous suivre, vous pensez qu'au niveau national, nous n'avons pas assez d'expertise pour pouvoir lutter contre la corruption? Parce que vous souhaitez qu'il puisse y avoir des experts extérieurs, ou bien vous avez même proposé qu'on puisse avoir, au niveau de la justice, des étrangers pour permettre de pouvoir lire correctement le droit et lutter contre la corruption.
Exactement, madame, nos procureurs, leurs adjoints, le président, leurs adjoints, il nous faut vraiment des agents, des gens qui viendront de l'extérieur pour nous aider dans cette histoire. Je vous donne un exemple. Nous sommes presque à la fin de l'année. Allez voir seulement les Français qui se font des autorités territoriales, des districts, voire des provinces, des autorités provinciales vers Kinshasa. C'est une forme de corruption. La police de roulage. On vit aussi de tout le monde qui demande ce qu'on appelle les rapports. Qu'est-ce que tout bien que nous puissions avoir, madame? La corruption, c'est qu'on vit aussi de tout le monde. Donc, l'expertise nationale ne peut plus vraiment nous aider, madame. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une grande préoccupation. Et puis, je pourrais encore demander. Et si réellement on veut nous faire la lutte contre la corruption, que cet office-là, si la cour qui viendra, soit installée dans toute la province et que soit dirigée par des expatriés. Nous n'avons plus confiance en nous-mêmes.
Merci Jean-Claude de Mbandaka. Bonjour Dépol. Dépol, là, presque tous nos auditeurs sont allés, ils ont fait une analyse de la corruption au niveau vraiment des autorités et ainsi de suite. Mais est-ce que vous ne connaissez pas quand même au niveau totalement primaire la corruption dans nos quartiers, dans nos écoles, au marché?
Non, dans tous les jours, je dirais que la corruption, ça gangrène vraiment presque dans tous les pays du monde. Mais ici au Congo, c'est devenu considéré quelque chose à légaliser. Je dirais que ça commence du plus bas au plus grand, au plus haut. Ça commence du plus haut au plus petit. Parce que ce que nous voyons même dans nos quartiers, il y a une affaire par exemple des parcelles qui peut se régler selon la loi, en amiable, vous voyez, il y a des corruptions par-ci, par-là, quand on vient pour sanctionner, c'est celui qui avait raison et qui a tort, et celui qui avait tort a raison parce que, justement, il avait corrompu. Pour moi, je dirais qu'une solution est envisageable, à commencer d'abord par les autorités de la République, en partant du premier jusqu'au dernier, que tout le monde prenne conscience. Après la conscience, je dirais qu'il faudrait bien que les autorités sachent bien payer tous les fonctionnaires et tous les travailleurs qui travaillent comme ça. Il y aura moins de corruption qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que la corruption ne va pas se terminer, parce que même dans les pays où les gens sont mieux payés, la corruption existe toujours. Donc il faut la diminuer, qu'elle reste au moins à une échelle plus basse.
Merci. Merci, Décolle. Mais comment réagissez-vous à l'avis de Jean-Claude, plus que votre prédécesseur, qui a dit qu'il serait même nécessaire de pouvoir totalement assainir le secteur de la justice et même faire appel aux étrangers pour gérer ces institutions-là, cette institution-là?
Je pense que le Congo est un pays souverain. Il a des agents capables, des avocats capables, des magistrats capables de diriger et d'exercer les droits. Bon, je souhaiterais que l'on puisse conscientiser tout le monde, que tout le monde soit conscientieux, que l'affaire de l'État, c'est quelque chose à respecter et que les droits doivent être dit d'une manière égale pour tout le monde.
Merci, Dépole de Kinshasa. Maître Alain, bonjour. Maître Alain, vous êtes à Goma, c'est dans le Nord Kivu, vous nous avez appelé, nous vous avons rappelé pour que vous puissiez vous exprimer concernant la corruption en RDC, surtout la lutte contre la corruption. J'espère que vous êtes au bout du fil, Maître Alain. Nous avons perdu Maître Alain de Goma, nous allons essayer de pouvoir le recontacter tout juste après ceci.
Aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Nous revenons à vous, monsieur Mundambali. Vous avez suivi nos auditeurs et ils ont vraiment relevé plusieurs questions, ils ont fait des propositions, ils ont fait même un lien entre la corruption et le faible revenu, un lien entre la corruption et le développement, un lien entre la corruption et la bonne gouvernance. Donc vous voyez qu'ils ont une idée globale de ce qui se passe, pas seulement au niveau des autorités, même dans le quartier. Votre réaction?
Il est vrai que tous les auditeurs ont été unanimes à ce que ce fléau a fait des dégâts au sein de notre société, nous en sommes conscients. Les pistes et les solutions qu'ils ont proposées me paraissent aussi des pistes réfléchies. Mais seulement, ce sont des pistes présentées d'une manière un peu disparate. Je vais commencer par l'auditeur de MOBA, M. Pierrot, qui dit qu'il faut, comme solution, mobiliser le peuple, qu'il prenne sa responsabilité, non pas descendant de la rue. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, ces genres de revendications ne sont pas du tout autorisées.
C'est parce qu'il a dit en descendant dans la rue.
Non, il a dit.
Il faut que le peuple prenne en charge.
Oui, je comprends ce qu'il a voulu dire par là. Qu'il se prenne en charge, c'est-à-dire quoi? Le premier acteur dans la littérature consacrée sur la lutte contre la corruption, le premier acteur du combat, s'avère être le peuple lui-même, puisque c'est le peuple qui est la victime. Et si la victime ne prend pas conscience du danger, des conséquences de la corruption, il est vrai que la corruption va continuer à triompher sur lui, à l'écraser. Et nous disons, nous allons installer dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption un dispositif qu'on appellera le cross-center ou la ligne de tolérance zéro. Pour les gens qui ont parlé de l'opération tolérance zéro qui n'a pas donné de fruits. Alors, le cross-center va fonctionner en synergie avec tous les organes impliquée dans la lutte contre la corruption. Il y aura l'agence gouvernementale de lutte contre la corruption instituée après l'accord du gouvernement. Il y aura la commission indépendante de l'éthique et de lutte contre la corruption, une structure mixte qui va regrouper les membres du gouvernement, les institutions publiques, les membres de la société civile, le monde des affaires et les membres de la société savante. Cette structure aura un droit de regard sur la structure gouvernementale qui va travailler en amont. Alors, maintenant, le rôle du peuple sera de servir de ce qu'on appelle le whistleblowing, les sonneurs d'alarme. Ce sont eux qui sont avec les politiciens qui se versent dans les magouilles de corruption et des suites. Ce sont eux qui assistent à des constructions, des maisons, des villas la nuit. Elles sont visitées souvent par les politiciens la nuit parce qu'ils ont peur de se faire voir au grand jour. Alors ce sont ceux-là qui doivent donner le signal d'alarme pour que les combats contre la corruption soient effectifs. Là, c'est le rôle du peuple tel que moi je l'attends dans la stratégie nationale que nous sommes en train d'élaborer. Alors, en ce qui concerne notre auditeur de Bukavu, qui dit qu'il faut couper les relations avec des pays amis, le rétablissement des relations avec des pays amis, je dis que ce n'est pas une approche. Nous tous, nous sommes membres des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, et à ce titre, nous sommes signataires de la 8e Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette convention appelle, invite, recommande aux États membres de pouvoir coopérer au niveau de la corruption transfrontalière. À ce sujet, s'il y a un acte de corruption qui se passerait sur notre territoire et que le sujet se serait réfugié au Burundi, effectivement, suite à ces mécanismes, suite à ces instruments juridiques qui existent et qui accompagnent aussi le protocole de la SADC, il y a aussi la Convention de l'Union africaine de prévention et lutte contre la corruption, nous pouvons activer les machines jusqu'à la récupération des avoirs qui sont partis être stockés dans d'autres pays du monde.
Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette corruption, pas seulement au niveau des autorités, mais c'est la corruption aussi qu'on vit chaque jour. Par exemple, pour avoir un document au niveau de peut-être d'une commune, ou bien au niveau dans une école, même les élèves, quand ils arrivent en retard, peut-être au portier, ils peuvent donner 100 francs, 200 francs pour passer. Donc c'est de cette corruption aussi qui est vraiment l'objet de cette émission, au-delà de la grande corruption et les trafics d'influence qui peut exister au niveau des autorités.
Je vous concède cela, Madame Chantal. Il s'agit de ce qu'on appelle la petite corruption, la corruption de survie. Elle est devenue presque un mode de vie de la société congolaise. Ça, c'est le constat qui a été dégagé par les 450 délégués invités au Forum national sur la lutte contre la corruption. Alors, comment est-ce que nous attendons nous attaquer à cette petite corruption qui est aussi dangereuse, puisqu'elle peut se développer en grande corruption?
C'est même les racines de la corruption, parce qu'on a déjà l'habitude de le faire. On va couper des postes politiques, ce sera totalement normal.
Effectivement, madame. Et ici, nous envisageons dans notre stratégie deux niveaux d'intervention. Il y aura d'abord, si la situation est très grave, nous prenons le cas d'un État qui est vraiment miné et ruiné par la corruption, il faudra une approche qui mise sur la répression. Or, le problème étant endémique dans notre pays, ce n'est pas l'approche répressive qui suffirait seule à pouvoir éradiquer la corruption en RDC. Il faudra combiner et l'approche répressive avec l'approche préventive. L'approche préventive paraît être la plus redoutable, la plus durable, parce qu'elle commence de la famille. Chaque famille doit prendre ses responsabilités pour pouvoir éduquer l'enfant conformément aux valeurs sociétales, aux valeurs de notre pays, aux valeurs républicaines. De la famille, nous allons monter vers l'école. Il y aura des livres de civisme, des livres qui parlent, nous avons déjà des livres.
Vous parlez au futur.
Non, nous en avons déjà, madame. Nous en avons déjà.
Vous êtes vraiment au futur.
Non, madame,
des questions qui devaient arriver un jour.
Madame, je venais de rédiger, de créer une légende sur la corruption, la chauve-souris et la corruption, madame. C'est le pire futur. Ce sont des œuvres qui sont déjà étudiées dans certaines écoles qui ont eu l'occasion de pouvoir lire cet échantillon. Maintenant, nous reproduisons les documents à grande échelle, à grande production, de manière à ce que ces ouvrages, ces petites légendes, puissent pénétrer même les écoles de l'intérieur. Donc, je n'ai pas les procutures. Moi, je dis, l'approche la plus durable me paraît être l'approche préventive. D'ailleurs, la littérature elle-même de la lutte contre la corruption recommande à ce que les activités de prévention soient de l'ordre de 70% par rapport aux activités de répression qui devraient être de 30% à diviser aussi avec les activités de détection.
Mais quand même, c'est trop aussi nécessaire si, par exemple, on voit, comme on les appelle couramment, à qui ça fait même en RDC, les clowns en cravate qui tombent, et on suit le procès tout le long, on voit par exemple des députés ou bien des grandes personnalités, des ministres et même des grandes personnalités, pour en arriver à avoir des exemples comme ça, ça permettrait de donner un signal fort aussi.
Ah oui, ça, nous en sommes d'accord, j'ai été en prison, à la prison centrale de Makala, Madame Chantal, où j'ai été rendre visite à des personnalités, à des prévenus, à des condamnés pour fait de corruption. Donc, il y a déjà, c'était le 29 décembre 2009, que j'étais à la prison centrale de Makala, et là, j'ai rencontré au moins 300 prévenus et condamnés, confondus. Et là, ils ont fait même des déclarations officielles, je crois que vous aviez suivi, c'était sur les antennes de la RTLC, où certains même demandaient pardon. Ils reconnaissaient qu'ils ont été corrompus, qu'ils ont détourné l'argent de l'État. Il y avait des Kouluna, il y avait des ADG, il y avait des officiers supérieurs de notre armée, des forces armées congolaises. Donc, il y a des gens en début des solutions. Quand on trouve déjà 300 personnes condamnées pour faire des corruptions...
Sur une population de près de 60 millions...
Et nous avons fait des calculs, Madame Chantal, vous avez raison. Et si nous devons mettre 65 millions des peuples congolais en prison, s'il faudra en créer combien, madame?
Combien
de dépenses énormes? Au moins 650 000 prisons, madame. Nous avons fait des calculs. D'où la répression, la prévention doit prévenir la répression.
Nous allons suivre d'autres auditeurs qui veulent aussi s'exprimer. Arsène de Kikwit, René de Kindou, Simon de Makadi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène.
Bonjour Madame Chantal.
On vous écoute Arsène, quelles sont vos propositions?
Ok. Les propositions, d'accord, il y en a si nombreuses. Allô?
Allô, on vous écoute Arsène.
Ok. Moi je voulais dire ceci. Madame, pour bien réussir cette histoire, il faut savoir contrôler les gens qui doivent contrôler.
Ouais.
Voyez un peu ça.
Mm-hmm.
À la tête, il y a tout un système. Ce système-là qui doit remettre les histoires en marche de la tête jusqu'aux jambes, je crois que c'est un système qui ne fonctionne pas correctement. La corruption n'est pas nécessairement financière, je crois. Il y a la corruption morale aussi. Je fais des constats, par exemple. Un chef arrive, un patron, prenons tous nos gouvernants, il arrive dans un coin de la République, là, tout le monde est en train de souffrir. Qu'est-ce qui se passe? La population commence par le corrompre, d'abord en chantant les louanges, ainsi de suite, hein, et lui, il trouve que non, ici, ça va. Donc, si la population commence à chanter des louanges aux responsables qui doivent trouver la solution pour eux, le responsable à son tour trouve que non.
Tout va bien.
En tout cas, tout va bien.
Mm-hmm.
Lui, de son tour, il promet ce qu'il est incapable de réaliser. Tenez, aujourd'hui, notre invité est là. Il nous a donné toutes les formules montées pour combattre un peu la corruption. Mais moi, je dirais autre chose. La corruption a été presque toute une éducation. Ça s'est aggravé à partir des années 70, 80, ça a commencé à être institutionnalisé. Partout, dans toutes les couches de la population, vous remarquerez que c'est devenu comme une habitude. Mais pour combattre ça, il faut commencer par la base. Parce que les enfants qui ont appris à donner 100 francs pour recevoir 2 points chez leur professeur, aujourd'hui, se retrouve à l'université pour payer, je ne sais pas, $200 au professeur, et il se retrouve quelque part responsable. Croyez-vous que vous allez enlever cette histoire dans sa tête facilement, madame?
Mmh, c'est
donc, pour moi, il faut d'abord commencer par remettre le système éducatif des enfants qui sont grandis avec une éducation solide, sachant que la corruption, c'est un grand méfait, avec des enseignants qui sont bien payés, qui ne puissent pas recevoir de 100 francs ou de 200 francs entre les mains des enfants parce qu'ils ont faim. Et là, nous pouvons dire que nous avons commencé à faire un pas. Mais si nous parvenons seulement à tracer des grâces, vous savez, madame, permettez-moi, le Congo héberge des grandes intelligences capables de réaliser toutes les théories que possible pour trouver les solutions. Mais mettez ça en pratique, là, ça devient un gros problème parce que la corruption est dans le sang. Recommençons presque dans l'éducation de nos enfants d'abord, et progressivement nous allons vers les yeux qui vont venir et puis laisser cette nation aux enfants correctement.
Merci.
Au lieu de commencer par le dessus qui est aussi corrompu.
Merci beaucoup, Arsène. Vous avez mis l'accent sur les gardiens des gardiens. Il est nécessaire qu'il y ait des gardiens des gardiens. Merci, Arsène, pour votre théorie. Nous allons suivre maintenant René de Kindou. Bonjour.
Bonjour, madame.
René, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour éradiquer la corruption?
Bon, devant cette situation, madame, moi, j'ai proposé trois pistes de solutions. La première, c'est pour les hautes personnalités de la République, donc nos administrés. Déjà, on doit leur faire peser le poids de la justice, c'est-à-dire les gens doivent être punis par la loi, par des actes qui sont en train de poser. Parce qu'ils se laissent corrompre, ce n'est pas parce qu'ils ont de mauvais salaires, ils ont de bons salaires, mais par mauvaise volonté, ils se laissent corrompre comme ça. La deuxième piste, c'est pour les agents de l'État. Il faut leur donner un bon salaire pour qu'ils aient au moins la conscience de bien travailler. Et la troisième piste, c'est pour la population. On doit inscrire à la population la culture du travail. Parce que souvent la population, notre population congolaise, est maintenant maintenue dans la culture de la recherche de facilité. Alors c'est ce qui fait assez que tout le monde, chacun ne veut plus se donner au travail, il veut seulement corrompre pour qu'il puisse réussir facilement. Alors à cela, après avoir bien payé les agents de l'État, et maintenant les agents de l'État vont apprendre à la population de bien de beaucoup travailler pour faire échapper cette maladie sociale qui est en train de régner dans le pays.
Merci René de Kindou. Pour vous, il faut vraiment qu'il y ait une justice assez forte hein, pour permettre de réduire la corruption dans notre pays. Bonjour Simon.
Bonjour madame.
Vous êtes à Matadi. On vous écoute.
Oui, je suis donc Simon Sirou, le secrétaire provincial de Sinecat Bakongo. En fait, madame, nous sommes dans une situation de la mort intellectuelle, éthique et morale de la nation parce que on a commencé à négliger l'enseignement depuis, je crois, après les années 60. Donc à partir de 70, c'est de ce moment-là qu'on a commencé à négliger l'enseignement et ceci a donné naissance à une catégorie d'individus plongés dans la corruption, dans l'immoralité, manque d'éthique cruelle. Vous savez que la corruption règne en maîtresse et vit à une très bonne santé dans notre République démocratique du Congo.
Les propositions pour éradiquer.
Oui, voilà, les propositions sont simples. Madame, sous le minimum vital, on ne peut pas exiger des vertus à une personne. Une maman de la première année primaire qui apprend déjà à emprunter des biscuits, donc elle prête les biscuits aux enfants pour venir lui payer demain ou après-demain, avec des bénéfices exagérés. Une école qui vend déjà des uniformes à un prix exagéré, et d'ailleurs, pour les biscuits, les enfants qui empruntent en font l'habitude même dans la vie. Donc, à l'université, il y a des juristes qui trichent et qui corrompent. Ce sont des gens qui vont faire
des mais alors,
pour les propositions, il va falloir que l'État congolais mette les gens dans une vie un peu
meilleur à bien les payer et mettre des sanctions et afférentes sévères. Lorsqu'on a un salaire décent et qu'on commet une erreur, on est sanctionné terriblement. Parce que sous le minimum vital, exiger des vertus à une personne, c'est difficile. Vous payez un enseignant 32 000 francs. Vraiment, il doit faire la vie à payer les loyers et tout ça, grosso modo. Vous trouvez que c'est difficile?
La seule manière pour lui, s'il vous plaît, Simon. Donc, pour vous, vous pensez que la meilleure façon pour un enseignant qui n'a pas un salaire décent, c'est d'accepter la corruption pour qu'il puisse en sortir? Et ce n'est pas d'autre voie?
Je ne dis pas ça. Je dis sous le minimum vital, il est difficile d'exiger des vertus à une personne. C'est pourquoi nous n'encourageons jamais et nous n'encouragerons jamais la corruption, mais que l'État mette des mesures nécessaires pour que cet enseignant vive bien et des sanctions disciplinaires exemplaires lorsqu'il essaye de déraper. Parce qu'il doit faire lutte à la vie. Il y a par exemple la loi cadre qui lui permet d'avoir un bon salaire, la loi cadre qui lui permet d'avoir les soins de santé, les frais funéraires. Il n'a pas tout ça.
Mais
ce qu'il gagne, il doit faire la vie. Lorsqu'il n'enseigne pas bien, il fait le sous-enseignement. C'est une corruption aussi qu'il faudra corrompre. Il doit enseigner l'enfant en totalité. On n'arrive pas à bien faire le travail. Si jamais il mettait des structures de suivi, on doit mettre dans chaque école une structure de suivi contre la corruption.
S'il vous plaît, Simon, il faudrait bien qu'on puisse quand même s'entendre, s'écouter, communiquer, parce qu'apparemment, là, vraiment, on sent que c'est mettre hors de vous. Vous êtes émotionné lorsque vous êtes en train de parler, mais nous devons dépassionner le débat, essayer de trouver des pistes de solutions. Merci beaucoup, Simon de Matadi, pour votre intervention. Ça a été un peu difficile qu'on puisse communiquer. Merci en tout cas encore une fois. Nous espérons que prochainement nous allons encore une fois vous retrouver sur les antennes de Radio Okapi et de Matadi, où vous nous appelez. À Matadi, vous nous suivez sur 102.0 FM, Monsieur Simon. Nous allons écouter Henri de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous serez le dernier auditeur de cette deuxième série, le temps qu'on puisse aussi donner la parole à notre invité, Monsieur Augustin Mwindambali, qui est coordonnateur du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Henri, dites-nous quelles sont vos propositions pour lutter contre la corruption.
Merci madame. La corruption, comme vient de le dire la plupart des intervenants, est devenue pratiquement une gangrène sociale dans notre pays. Alors, c'est une maladie, c'est devenu une maladie. Et quand quelqu'un est malade, il se présente chez le médecin pose des questions. Quand est-ce que ça a commencé? Comment ça s'est manifesté? Alors, la corruption, quand nous posons la question, quand est-ce qu'elle a commencé? On l'a dit durant la Deuxième République. Comment est-ce que ça a commencé? C'est quand on a pratiquement paralyser tous les secteurs productifs de l'État. Seul secteur qui était resté, c'est la politique. Quand vous êtes un politicien, tous les villages, tous vos frères, les espoirs sont sur vous. Votre salaire, même si vous avez 10 000 dollars, mais vous devez aider une famille de 40 personnes qui travaillent mais qui n'ont pas un salaire qui leur permet de vivre. Donc vous devez vivre au-delà de votre salaire. Au-delà de votre salaire, c'est-à-dire chercher des moyens qui ne sont pas légaux pour avoir quelque chose en plus. C'est ça la corruption. Bon, alors c'est devenu un système de gestion même de l'État, comme je dis toujours, tous les phénomènes sociaux sont des conséquences de la gestion de l'État.
Et Henri, quels sont les remèdes?
Les remèdes, mais écoutez, les remèdes, c'est changer le mode de gestion de l'État. Or, ceux qui gèrent de l'État, ce sont des acteurs, ce sont des personnes. Donc la corruption est devenue personnifiée. Bon, pour éliminer la corruption, il faut éliminer ces gens qui font la personnification de la corruption, pas les éliminer physiquement, mais les éliminer en tant qu'acteurs dans les secteurs de divers secteurs de l'État. Alors, vous avez suivi par exemple le président de la République, tolérance zéro. Mais c'est bien tolérance zéro, ça c'est un slogan. Mais qui va appliquer cette tolérance zéro-là? C'est celui-là qui est corrompu? C'est celui-là qui fait la corruption? La rigueur de la loi, madame, c'est, je crois,
avec quel acteur on va l'appliquer, si les acteurs en question sont corrompus. Je pense que ça doit commencer par une conscientisation politique au niveau des partis politiques. Et au niveau des partis politiques, où on trouve les acteurs politiques qui animent la gestion de l'État. Mais malheureusement, ces partis politiques, chez nous ici, ne fonctionnent même pas. Soit vous comprenez, dans toutes les voies où nous essayons de nous lancer, il y a un handicap.
Donc vous êtes vraiment pessimiste pour la RDC, on ne va pas s'en sortir.
On va s'en sortir. Maintenant, ça, c'est justement là où chaque parti politique qui gère le pays va trouver sa compétence, ses capacités.
Merci beaucoup, Henri, pour votre intervention. Adrien, vous serez le dernier en une minute. Dites-nous quelles sont vos propositions.
Oui, Marie-Chantal, moi je pense que c'est comme presque tout le monde a eu à invoquer ça. Moi je qualifie la corruption en RDC qui est devenue comme un sport national, c'est-à-dire c'est un plaisir pour tout le monde et les gens trouvent normal pour se faire corrompre ou bien pour corrompre et puis mettra pour mettre fin à cette corruption-là. Moi je pense que la corruption c'est un fléau, à mon humble avis, en tant qu'un fléau, il y a possibilité d'éradiquer ça de même.
Mais comment vous voulez mettre fin à ce fléau?
Voilà, j'y arrive. Il faut d'abord commencer à doter d'abord l'appareil judiciaire avec des moyens colossaux. Donc, il faut que ces gens-là soient mis vraiment dans de très, très, très bonnes conditions. Pourquoi pas aussi transformer la corruption en une infraction spéciale, comme on l'a fait avec les viols. Parce que si on mettait vraiment l'infraction donc, de la corruption avec beaucoup de peine, avec beaucoup de rigueur, moi, je pense qu'il y a possibilité d'éradiquer ces corruptions-là, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui sont censés vraiment combattre cette corruption-là, et ce sont eux qui sont à la base, qui occupent la première place en ce qui concerne la corruption. C'est un peu dommage. Il faut revoir vraiment tout ce système-là avec le nouveau magistrat qui nous arrive. Malheureusement, ils ne sont pas mis aussi dans de bonnes conditions, mais il faut compter avec ce magistrat-là pour le mettre dans de bonnes conditions pour combattre, attaquer directement.
Merci Adrien de Salanga. Pour vous, il faudrait revoir le secteur de la justice pour lutter contre la corruption.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Lucien Nambal, vous avez suivi nos auditeurs, vraiment c'est un débat vraiment qui est très passionné et il faudrait dire qu'ils sont revenus presque tous sur le secteur de la justice. On fait allusion aux lois dans d'autres pays, par exemple au Rwanda, on a criminalisé la corruption et à notre niveau, les lois qui existent, la corruption est une infraction de droit commun. Est-ce que vous pensez que l'arrivée à renforcer les textes juridiques, cela pourra permettre de lutter contre cette corruption?
Merci madame, je crois que la démarche effectuée au Rwanda est pratiquement celle qui est en train d'être mise en place ici à l'RDC. Ici j'en profite pour vous informer qu'effectivement dans le code pénal à ses articles 145, 146, 147, la corruption est une infraction des droits communs. Mais nous avons demandé dans la stratégie nationale, et c'est en voie d'être accepté, que cette infraction, que la corruption soit élevée comme une matière spéciale, de manière à ce qu'elle soit gérée par une cour spéciale, une chambre spécialisée, et cette chambre va légiférer à partir d'une loi qui sera appelée la loi portant lutte, répression, prévention et répression des pratiques de corruption. Nous en avons déjà, madame, nous sommes en train de statuer là-dessus, c'est déjà élaboré. Maintenant, on attend l'approbation, l'adoption de ces projets au niveau du Conseil des ministres, et puis elle sera ensuite présentée au niveau du Parlement.
Et qu'on a aussi réévalué le taux des amendes, parce que apparemment, quand il y a un détournement ou lorsqu'il y a une extorsion, une fraude, souvent des taux tremblement modiques.
Bon, tous les faits assimilés aux infractions de corruption sont un peu regroupés dans cette loi. Et à chaque fait, il y a effectivement une amende précise, une infraction à titre. Donc, la loi est là, ne vous en faites pas, elle sera dénommée la loi anti-corruption dans sa phase de prévention comme dans sa phase de répression. La loi est là, il n'y a plus de problème, il n'y aura pas à s'inquiéter. La Cour spéciale également sera bientôt mise en place ou la Chambre spécialisée anti-corruption. Ce sont les deux instruments efficaces que nous allons utiliser pour pouvoir juguler les pratiques de corruption dans notre pays.
Dans d'autres pays, par exemple, quand ils lancent la lutte contre la corruption, on voit qu'il y a des panneaux publicitaires, par exemple en Mauritanie, au Gabon, au Cameroun, on sent vraiment qu'il y a une sensibilisation.
Vous avez raison,
en RDC, lutte contre la corruption dans un bureau, comment est-ce que la population peut savoir qu'il y a vraiment une lutte contre la corruption?
Vous avez raison, madame. Il fallait d'abord mettre sur pied une stratégie nationale. Dans la stratégie nationale, il y a le volet communicationnel qui doit accompagner les animateurs de lutte contre la corruption dans leur job. Et ce volet communicationnel, dès qu'on va faire la mise en place, puisque la stratégie sera adoptée, je vous invite, madame, le 25 octobre, à la présentation de cette stratégie nationale au Grand Hôtel. Le document sera déposé entre les mains du gouvernement à travers notre ministre de la fonction publique qui est en charge de la supervision des activités de mise en œuvre du protocole d'accord anticorruption RDC, RCA et l'IMODC. Donc, dans le plan des communications, c'est prévu. Il y aura des affiches, il y a des spots publicitaires. Nous allons utiliser au CAPU. Les médias doivent jouer un grand rôle. C'est prévu dans le plan des communications de manière à ce que les gens découvrent d'abord, au lieu de découvrir la définition, quelles sont les conséquences de la corruption pour un pays comme le nôtre. C'est à partir de là que nous pouvons petit à petit définir qu'est-ce que la corruption. Ça ne sert à rien de définir directement la corruption, mais montrer d'abord les conséquences.
Les hôpitaux
manquent de médicaments, les routes ne sont pas bien entretenues. Où vont l'argent? Qui puise l'argent de l'État?
Autant de questions. Nous allons écouter Philippe et Fabien, ce sont les deux derniers auditeurs de cette émission. Philippe, de Xanali, vous avez une minute en tout cas.
Philippe? La corruption est déjà définie. Hein, mais, je crois que nous avons dans les tiroirs le rapport de l'honorable Lutundula. Nous avons le rapport Mayobo et plusieurs rapports de missions d'audit de la Cour des comptes. Ces rapports sont toujours dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces rapports pour combattre la corruption? On a déjà défini la corruption, ça fait des années. On ne peut pas aujourd'hui dire que la corruption va encore la définir. Nous connaissons le fait de la corruption.
Oui, mais les remèdes, Philippe, on peut passer aux remèdes.
Oui, c'est-à-dire que pour arriver à éradiquer ça ou bien à diminuer, parce qu'éradiquer c'est difficile, il faut que le gouvernement, ce qui nous gère, arrive d'abord à faire convenablement ceux qui ont l'administration à tous les niveaux. Il y a la fonction publique, il y a les militaires et la police. S'il y a une bonne politique de la paye, je crois qu'on peut arriver à réduire ça.
Oui.
C'est ça ma proposition, parce que mes prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel.
Merci à Philippe de Kisangani. Fabien Bandundu, bonjour, on vous écoute.
Ah oui, bonjour, maman. Ma préoccupation sera un peu concise. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, c'est d'abord le problème de la conscience. Et pour pallier à cela, il faut que l'État congolais puisse revoir la condition de vie de la population. C'est ça vraiment ma préoccupation.
Merci Fabien de Bandundu, vous êtes le dernier auditeur de cette émission. Nous arrivons vraiment à la fin, le temps de pouvoir donner aussi la parole à notre invité pour conclure. Nous disons merci beaucoup à Pascal de Mbandaka, mais nous n'avons plus assez de temps pour qu'il puisse s'exprimer, monsieur Ndambali. Vous avez la parole en conclusion.
En conclusion, je dirais qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour pouvoir combattre efficacement la corruption. Et c'est parmi ces paramètres, nous allons dégager d'abord les axes pivots, qui sont les axes de la prévention, détection et de répression. Alors, quand nous parlons de ces deux axes, de ces trois axes, nous disons qu'il y a aussi la volonté de l'autorité hiérarchique qui doit s'impliquer profondément dans les mécanismes de lutte contre la corruption.
Donc,
la
c'est très fort, hein, parce que
très fort.
Sinon, c'est très difficile.
Oui. Alors, dès que nous avons réuni effectivement ces moules-là qu'on applique dans tous les secteurs, bon, nous allons maintenant prendre secteur par secteur. Réforme du ministère de la justice. Pour quel type de magistrat honnête, consciencieux, intègre? Il faut déjà veiller dès le départ au moment de.
Dans votre avis, c'était question de pouvoir imaginer combien de temps ça peut prendre, un siècle, deux siècles?
Non, madame, non, madame. C'est un problème. Nous avons commencé depuis le 19 décembre 2009 à élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Voici que 6 mois après, nous avons une stratégie que nous allons présenter au gouvernement. Et 2 mois après, nous allons faire la mise en place des instruments de lutte contre la corruption et le programme anticorruption pour l'RDC démarre immédiatement. Donc d'ici décembre, nous aurons un programme opérationnel dont on n'a pas à se faire de soucis là-dessus.
Alors je disais... Le changement de comportement, de progrès, de mentalité...
Vous me donnez raison, Madame Chantal, c'est pour ça que j'avais dit que la prévention doit avoir au moins 70%. Et cette prévention doit être menée d'une manière global. C'est pas seulement sectoriel. Famille, éducation, société, autorité, pour que, comme l'avait dit le premier intervenant, que la génération des corrompus commence à disparaître et que nous puissions laisser place à une nouvelle génération qui va plaider pour des valeurs républicaines, des valeurs humanistes, des valeurs qui ne sont pas attachées des pratiques de corruption. Alors j'avais dit le secteur justice va être sérieusement suivi de près. Tolérance zéro ne doit pas être un slogan, comme on a dit, mais il faut que ça se réalise à travers la pratique. Mais n'oubliez pas également, à côté du secteur justice, il y a aussi le secteur minier. Là où il y a trop de problèmes, là, avec les nouvelles expressions comme pas des portes, qui couvrent parfois les concepts de corruption, parce que l'argent donné ne sert pas à l'État, mais entre dans les poches des individus. Alors, il y a le secteur économique et surtout le secteur éducationnel. Sensibilisation, éducation, voilà nous devons jouer. Les parents mobilisés derrière les enfants dans une bonne éducation, les écoles également avec une discipline de fer, assez dans les valeurs morales, et nous pouvons nous en sortir.
Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous disons merci aux auditeurs qui sont intervenus et ceux qui n'ont pas pu, on n'avait pas suffisamment de temps, mais nous leur disons merci d'avoir suivi cette émission, ceux qui nous ont suivi en FM à travers la RDC ou partout dans le monde sur www.radiocapi.net. Demain, nous nous retrouvons, nous allons faire un état des lieux des morgues en RDC. Et la question, quelle est la situation, chez vous, vous pouvez réagir dès à présent, nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à Cynthia Bakizi, à Ben Kabamba pour la réalisation de cette émission, et William Lungamba qui était à la mise en œuvre. Marie-Chantal Lumba, je vous dis merci et à la prochaine.